Tandis que c'est une visite éclair. Alors, la vitesse, à la vitesse où il bouge, le pape François, visite et éclair, c'est un audacieux oxymore. Le pape François est allé visiter une prison pour femmes où sont détenues 80 dangereuses prisonnières. Et c'est courageux. J'ai envie de dire, c'est couillu pour un puceau. En tout cas, le pape a de plus en plus de points communs avec son zizi. Il a du mal à se lever et il sort très rarement en public. Cachez-vous, je file, je vous laisse là-dessous.
Oh non, bravo. Bon, allez, l'œil de Philippe Cavrivière. On vous retrouve à 8h40 pour votre deuxième œil. Merci Fabrice Rizzoli d'être resté avec nous. Bonne journée et bon travail. Il est 8h.
7h, 9h,
RTL Matin.
Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Et le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, ces boîtes aux lettres papillons qui peuvent sauver des enfants.
Oui, elles sont installées dans les écoles pour que les enfants puissent déposer des mots s'ils sont en danger. Et c'est ce qu'a fait la petite Lily, 10 ans, qui a pu dénoncer ainsi l'inceste dont elle dit avoir été victime de la part de son grand-père. On les a applaudis pendant le Covid, puis complètement oubliés. Pourquoi ces 11 millions de travailleurs invisibles cumulent toutes les difficultés ? Révélation RTL ce matin. Dans ce journal également, les aiguilleurs du ciel, très forts en négociation. On comprend mieux pourquoi ils ont renoncé à leur grève la semaine dernière. Et puis une histoire incroyable de Resto Basket, une famille du Pays de Galles qui laisse le petit dernier à la caisse après être parti sans payer.
Bruno Le Maire très attendu cet après-midi à l'Assemblée sur le dérapage budgétaire du gouvernement. La situation est-elle vraiment grave ou joue-t-on à se faire peur ? Nous poserons la question à 8h20 à l'économiste Jean-Hervé Lorenzi.
Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec le marathon des ponts de mai.
Eh oui, ça démarre cette semaine, la France dans les starting blocks à partir de mercredi. On travaille tous un peu à mi-temps.
RTL Matin.
C'est une première en France. En septembre prochain, dans l'Ain, un grand-père va être jugé pour inceste dans une affaire qui a démarré à l'école. On parle donc de l'association Les Papillons qui installe depuis 5 ans des boîtes aux lettres dans les établissements pour que les enfants, les adolescents puissent déposer un mot en toute discrétion quand ils sont victimes de harcèlement ou de violence à la maison. Et il y a 2 ans, c'est ce qu'a fait la petite Lily qui avait 10 ans à l'époque. Elle avait dénoncé les agissements donc de son grand-père, déclenchant dans la foulée une enquête judiciaire, Margot Munoz.
C'est une camarade de classe de Lily, la seule à être au courant de l'inceste dont elle est victime, qui lui conseille de déposer un mot dans cette boîte aux lettres décorée de papillons. Émilie, sa mère, nous le lit.
Lily avait donc écrit « Il met sa partie du bas dans ma partie du bas. J'essaye de m'enlever, mais j'y arrive pas. » Je peux vous dire qu'en tant que maman, vous ne savez pas trop ce qui vous arrive.
Pour la première fois, Lily, élève en CM2, met des mots d'enfant sur ce qu'elle subit de la part de son grand-père paternel.
Les boîtes aux lettres papillons ont sauvé ma fille, oui, ça c'est certain.
En 2022, elle commence avec sa mère une procédure judiciaire, ce qui libère la parole des autres fillettes de la famille.
Elle a aussi donc ses 2 cousines qui ont aussi été victimes d'agressions sexuelles. Donc elle a fait un sacré job en mettant ce bout de papier dans cette boîte aux lettres, quoi. C'est énorme, quoi.
Aujourd'hui, Lily est adolescente. Il y a quelques jours, elle a reçu une lettre. Le procès de son grand-père aura lieu en septembre prochain.
Reportage de Margot Munoz pour RTL.
RTL a choisi de mettre en avant ce qu'on appelle les invisibles.
Oui, c'est 11 millions de travailleurs, 1 salarié sur 3. À qui tout le monde rendait hommage, souvenez-vous, pendant le Covid, parce qu'ils ne restaient pas, eux, à la maison pour se protéger. On parle des caristes, des infirmières, des caissières de supermarchés. Ils étaient, comme on dit, en première ligne. Et ils ont été depuis complètement oubliés à nouveau. Bonjour Martial Youn.
Bonjour.
C'est vraiment ce qu'on retient de cette étude de la Fondation Travailler Autrement que vous nous révélez ce matin.
Ben oui, ce sont donc des gens qui travaillent, mais qui s'en sortent pas. Premier problème, évidemment, le salaire. Ils gagnent entre 900 et 2000 euros. C'est moins que la moyenne nationale. Officiellement, ils travaillent 10% de moins que les autres. Officiellement, parce qu'en réalité, ils ont des journées gruyères avec des horaires imposés, tôt le matin, tard le soir, le week-end. Les temps de pause ou de transport entre 2 rendez-vous pour les femmes de ménage ou les aides-soignantes ne sont pas comptabilisés. Ça fait des journées à rallonge, bien sûr.
Donc 11 millions de salariés qui cumulent en plus toutes les autres difficultés.
Ah oui, ce sont les premières victimes des crises qu'on vient de connaître ces derniers mois. Les invisibles utilisent plus la voiture que les autres. Donc ils ont subi la hausse des prix des carburants. Plus de la moitié n'a pas les moyens de faire un plein d'essence à chaque passage à la pompe. Crise du logement, ils habitent loin de leur travail et dans des maisons mal isolées. Ils sont obligés de travailler au noir et de vendre des objets d'occasion sur les sites comme Vinted ou Le Bon Coin.
Et tout ce que vous nous dites, Martial, ça nous fait penser à une chose, la crise des gilets jaunes.
Ben oui, parce que les gilets jaunes étaient et sont des invisibles. Des travailleurs pauvres avec 82% de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Ils font des métiers essentiels mais n'ont pas toujours les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Là, on pense aux corps enseignants, aux infirmières, au personnel des EHPAD. Ça veut dire une colère sociale comme au moment des Gilets jaunes et le risque d'un vote protestataire de plus en plus important.
Merci Martial You. Tout savoir sur les invisibles, c'est votre podcast aujourd'hui. Sur ce sujet en longueur qui sort aujourd'hui. Vous le retrouvez sur RTL.fr et sur l'application RTL.
Et il est 8h04, on en vient à cette question. Emmanuel Macron veut-il partager l'arme nucléaire? L'opposition, en tout cas, monte au créneau.
Oui, dans la foulée de son discours de jeudi dernier sur la défense européenne, le président de la République, dans une interview ce week-end, a donné des précisions. Et il ne ferme pas la porte, effectivement, à cette idée que la puissance nucléaire française puisse servir à l'échelle d'une menace européenne, Émilie Beaujard.
Oui, Emmanuel Macron propose de tout mettre sur la table pour organiser la défense européenne. En d'autres termes, le parapluie qui pourrait protéger le ciel des 27 en cas d'attaque. Le président évoque la défense antimissile, les armes de longue portée et l'arme nucléaire que la France est aujourd'hui la seule nation européenne à détenir. La doctrine française est la suivante. L'arme nucléaire peut être utilisée si les intérêts vitaux de la France sont menacés. L'idée serait donc d'étendre cette doctrine aux intérêts vitaux de l'Europe. Là-dessus, l'opposition a tout de suite réagi. Pour certains, c'est une ligne rouge qu'on ne peut franchir. Pour d'autres, c'est un abandon de notre souveraineté. Mais la construction de l'Europe de la défense est un objectif affiché par Emmanuel Macron depuis plusieurs années. La guerre en Ukraine a montré aux 27 pays membres qu'il était nécessaire de bâtir leur autonomie stratégique. Et encore plus, si Donald Trump revient au pouvoir aux États-Unis l'année prochaine.
Merci Émilie Beaujard. À retenir à l'étranger, le Hamas qui doit donner aujourd'hui sa réponse sur une proposition égyptienne de trêve avec Israël. Un responsable du mouvement cité par l'AFP indique n'avoir relevé aucun problème majeur, je cite. Mais on attend évidemment l'issue officielle et rien n'a filtré sur les modalités de cet éventuel accord de trêve. Et puis en Espagne, c'est aujourd'hui également que le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez doit dire s'il démissionne ou pas. Sa femme est mise en cause dans une affaire de prise illégale d'intérêt, mais lui dénonce un règlement de compte politique mené par l'extrême droite.
Il est 8h06, retour en France et on comprend mieux ce matin pourquoi les aiguilleurs du ciel ont renoncé à leur grève la semaine dernière.
On le rappelle, un jeudi dernier, l'appel à la grève était massif, au point d'annuler 75% des vols à Orly. Au dernier moment, ils avaient renoncé au mouvement, ce qui n'avait d'ailleurs rien changé pour les voyageurs parce qu'il était trop tard pour modifier les plans de vol. Bonjour Mathilde Piquet.
Bonjour.
Et on apprend ce matin qu'ils ont été plutôt bien servi dans les négociations.
Ah oui, entre 226 et 1001 euros d'augmentation sur le salaire net mensuel, des primes revalorisées, 18 jours de récupération supplémentaire par an et des pensions de retraite plus élevées. La liste en fera jalouser plus d'un. En fait, c'est simple, la plupart des revendications du principal syndicat des contrôleurs aériens a été reprise dans l'accord, de quoi éviter la grève de la semaine dernière et de limiter de prochains mouvements, notamment début mai.
Négociations fructueuses pour eux. Que dit le ministère des Transports là-dessus ?
Eh bien, pour lui, pas de problème, c'est un accord gagnant-gagnant pour les contrôleurs, mais aussi pour les passagers et les compagnies. Le ministre Patrice Vergriete avance ce matin que ces nouveaux avantages permettront d'économiser 1 million de minutes de retard. Ça fait donc un sacré paquet de passagers en moins à indemniser. En fait, la Direction Générale de l'Aviation Civile mise sur une amélioration globale des performances. Et puis, il y aura aussi des contreparties avec un système de pointage sur les horaires effectifs. Les autorisations d'absence en cas de faible trafic seront aussi supprimées. Il faut maintenant trouver un accord avec un autre syndicat pour appliquer les mesures.
Merci Mathilde Piquet. Vous avez ce matin les résultats de notre dernier sondage BVA X-Side pour RTL sur les européennes. D'abord, les Français s'y intéressent de plus en plus. En tout cas, 77% des inscrits sur les listes électorales connaissent la date le 9 juin prochain. C'est plus 9 points en un mois. Et sur les intentions de vote, pas de changement. Le RN reste largement en tête, 31%, devant Renaissance, 17%. Et la liste PS Place Publique qui est à 13%. Information RTL ce matin de Stéphane Boutsock. Omar Sy, qu'on recevait sur RTL vendredi, sera membre du jury du prochain festival de Cannes, tout comme l'actrice Eva Green, dont on se souvient dans son rôle mythique de James Bond Girl, notamment dans Casino Royale.
Dans un tout petit instant sur RTL, un train qui sort des rails à Lyon, tout ça à cause des trombes d'eau tombées en quelques heures.
Et puis un resto basket qui fait la une au Pays de Galles. Une famille avait laissé un enfant à la caisse pour pouvoir partir sans payer.
On c'est marche monstrueux. Sur la tête là.
Monstrueux. Il est 8h09.
À tout de suite.
RTL Matin revient dans moins de 30 secondes.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, Protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL Matin.
Il est 8h09, la suite du journal avec vous, Olivier Bois. Un train est sorti des rails hier à Lyon.
Oui, il y a eu un petit éboulement sur la voie. Le train avec 200 passagers a donc percuté des cailloux sans gravité. Mais le trafic Givors-Lyon-Perrache est tout de même interrompu au moins jusqu'à mercredi de cette semaine. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour.
C'est le talus en fait qui s'est affaissé à cause de pluie impressionnante hier.
Ah bah oui, il a plu toute la journée dans la vallée du Rhône et notamment sur le Lyonnais à tel point qu'on a eu ces 69 mm de pluie hein, avec donc pour conséquence effectivement des coulées de boue. 69 mm de pluie, normalement c'est ce qu'il tombe dans un mois normal, hein, à peu près sur le Lyonnais. Donc là c'est tombé en 24 heures et d'ailleurs on n'avait jamais enregistré une telle quantité sur 24 heures depuis le début des relevés, donc depuis quasiment 1940.
Ça, il va continuer à pleuvoir aujourd'hui ?
Et il va continuer à pleuvoir effectivement dans la vallée du Rhône et sur le Lyonnais, là encore, toute la journée. Il pleuvra également sur les Pyrénées-Orientales, ça c'est la très bonne nouvelle parce que là, on a besoin de précipitations.
Merci beaucoup Louis Baudin.
Allez, comme promis, on va parler maintenant de ce resto basket, il va falloir nous expliquer ce que c'est, qui fait causer au Pays de Galles.
Ah oui, rappelons le principe, oui. Un resto basket, oui. Vous mangez oui. Et vous courez.
Je connaissais pas ça, on part sans payer en fait.
On part sans payer. Quel est le rapport avec le basket, sûrement pas
Les baskets, les chaussures.
Les chaussures,
les tennis.
Oh là là.
Oh là là, d'accord. Donc resto basket, ça y est, vous avez le principe.
Oui, eh bien, c'est nul.
Une vidéo fait le buzz au Pays de Galles, 12 millions de vues, parce qu'en fait une famille a tenté le coup et pour ne pas éveiller les soupçons, elle avait laissé le petit dernier à la caisse et à lui après de se débrouiller pour partir comme il peut.
Allez, Johnny Gaucher.
Ce dine and dash, comme on dit en anglais, s'est déroulé dans un restaurant italien qui venait d'ouvrir sur le littoral gallois. Au moment de payer l'addition de 370 €, la famille sort et la mère se dirige vers le comptoir, mais sa carte est refusée. Elle laisse alors son enfant sur place comme gage de sécurité et promet de revenir avec une autre carte. Mais personne ne revient. L'enfant se sauve en courant dans la foulée. Le restaurateur confie qu'il avait commencé à avoir des doutes quand la famille qui avait commandé les plats les plus chers du menu les renvoyait en cuisine à moitié entamés. Lorsqu'il raconte l'histoire sur les réseaux sociaux, d'autres restaurateurs affirment avoir vécu une situation similaire pour un montant total qui dépasse les 1 200 €. Au lendemain de la publication, la pizzeria fait sale comble dans un élan de solidarité. Une enquête est en cours et les parents comparaîtront devant la justice pour vol et fraude le 8 mai prochain.
Voilà, on reste au basket. Il n'a pas fonctionné. Merci, Johnny Gaucher, au Royaume-Uni pour RTL. Le football, le PSG donc champion, parce que Monaco a perdu à Lyon hier 3-2. Le PSG qui est à Dortmund, évidemment, rappelons le mercredi, pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Brest, de son côté, sera européen la saison prochaine pour la première fois de son histoire. Victoire 5-4 hier face à Rennes. Et puis les filles de l'OL affronteront le FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 25 mai prochain à Bilbao. L'OL a battu le PSG hier 2-1 au Parc des Princes.
Olivier Bois nous proposait le journal de 8h sur RTL, il est 8h12.
RTL vous explique.
Et comme chaque matin, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité. Ce matin, RTL vous explique ce nouveau carburant qui pourrait donc être une alternative au tout électrique. Un carburant 100% renouvelable qui pourrait faire son apparition à la pompe dans les toutes prochaines années. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Ce carburant, vous avez pu le tester en avant-première pour RTL et M6. D'abord, concrètement, quel est le principe ?
Alors, ce carburant est basé sur l'E85 actuel hein, que l'on trouve dans les stations et qui se compose à 85% d'éthanol, issu notamment de maïs, de betterave, et 15% de pétrole. Eh bien, c'est cette part de pétrole qui est remplacée par de la biomasse, comme les céréales, l'huile de colza ou encore les huiles usagées, d'où son nom de carburant 100% renouvelable.
Et quel est l'avantage ?
Eh bien, son impact écologique par rapport à l'essence, vous réduisez de 70% les émissions de CO2 et près de 90% les particules fines. Et cela englobe tout le cycle, c'est-à-dire de la production à la sortie du pot d'échappement. Autrement dit, dans sa globalité, ce carburant peut être aussi vertueux que l'électrique.
Christophe, je le disais, vous avez testé en avant-première ce carburant. Est-ce que cela change quelque chose pour l'automobiliste ?
Oui, à bord d'un Ford Kuga, franchement, au volant, rien ne change par rapport à l'E85. Comportement, accélération, c'est neutre pour l'automobiliste. En revanche, attention, hein, comme pour l'E85, vous consommez davantage de l'ordre de 15 à 20% en plus.
Et le prix ?
Eh bien, la collective du bioéthanol, qui regroupe l'ensemble des producteurs de la filière en France, estime que l'on pourrait trouver ce carburant un peu plus cher que le 85, c'est-à-dire aux alentours de 1 euro le litre, mais quand même beaucoup moins cher que l'essence classique.
Christophe, vous êtes notre monsieur auto ici à RTL. Est-ce que vous diriez que ce carburant pourrait un jour être une alternative au tout électrique ?
Oui, vous le savez, en 2035, interdiction de vente des voitures thermiques en Europe seulement, sous la pression de plusieurs pays comme l'Italie, la Pologne, ces carburants renouvelables pourraient être autorisés par la Commission européenne, y compris après 2035, et toucher pas moins de 10 millions de véhicules à essence, rien qu'en France.
10 millions de véhicules potentiellement concernés. Merci beaucoup Christophe Bourreau. On vous retrouve ce soir dans le 19h45 d'M6 pour voir justement en images ce test que vous avez pu faire.
Il est 8h14.
RTL Matin, le surf de l'info.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez ce matin avec le marathon du pont des mois de mai qui démarre cette semaine.
Mais oui, c'est parti les amis, car mercredi...
On arrive au mois de mai, le meilleur mois de l'année.
Oh, tu m'étonnes, car mai en France, c'est sacré.
Mai, où l'on fait ce qu'il nous plaît, est la période de l'année où tout semble être calculé pour que l'on s'arrête de travailler.
Et encore plus cette année avec, tenez-vous bien, 4 jours fériés qui tombent tous en semaine. Alors... prenez quelques notes.
Il vous suffit de poser seulement 5 petits jours, les 2, 3, 6, 7 et 10. Au total, 17 jours off, plus de la moitié du mois.
Eh oui, car par la magie des ponts et des week-ends, vous posez les 2, 3, 6, 7 et 10 mai et vous avez 17 jours de vacances. À vous le plaisir d'un farniente. Et il y a un truc vraiment exceptionnel en plus cette année.
Là, c'est extraordinaire, mais bon...
De quoi ?
Il y a 2 jours fériés qui se suivent.
Eh oui, l'armistice du mercredi 8 mai et le jeudi de l'Ascension tombent le 9 mai cette année.
2 jours fériés la même semaine, c'est tout simplement exceptionnel. Ça n'arrive que 5 fois par siècle.
Ouais, donc autant en profiter, 5 fois par siècle, c'est rien. À fond après, avec les ponts de mai, le problème, c'est l'école. Car sachez-le...
En théorie, si un élève a 2 journées d'absence non justifiées dans le mois, les parents peuvent recevoir un avertissement et être convoqués, voire même être sanctionnés d'une amende de 135 euros.
Ah ouais, ça fait cher le pont. Mais en pratique, est-ce que ça arrive vraiment ?
Sur 2 journées d'absence, non.
C'est bon, voilà !
Je suis ton jour férié, je suis sur les ponts du mois de mai.
En voiture sur les ponts du mois de mai. Surtout, n'allez pas nous dire que la France...
C'est un pays qui ne travaille pas assez. La France est paresseuse.
Eh bien, c'est faux. La preuve, niveau jour férié...
Avec ses 11 jours, la France est loin derrière la Colombie et l'Inde. Premier ex aequo avec 18 jours fériés.
Voilà. Et puis les jours fériés, ça peut rapporter gros.
Pour les professionnels du tourisme, un jour férié en semaine, c'est jusqu'à 3 milliards d'euros d'activité supplémentaire.
3 milliards par jour férié. Et histoire d'en plus apprendre quelque chose grâce au jour férié, sachez-le...
Férié est issu du latin feria, qui signifie jour de fête à l'occasion duquel... on ne travaille pas.
Et vive la feria, et vive le mois de mai.
La feria de Nîmes, Nîmes pour les intimes. J'aime la feria, son parfum de fête autour des arènes.
Il prend des petites libertés.
Des petites libertés sur la musique. Petite précision, le pont du 8 mai, il est autorisé par l'école. Enfin, d'ailleurs, les enfants n'ont pas école, je vous le dis. Le 10 et le 11 mai, le vendredi 10. C'est sur le sud du ministère.
Vous l'apprenez.
Voilà.
Ça m'arrange.
Elle est au courant de tout, cette
Ce soir, 18h, RTL, bonsoir.
De l'actu, des débats, de l'humour. Et alors, en ce moment, se tient le procès de la secte de la Grande Mutation. On vous plongera en immersion au cœur des plus grandes sectes françaises avec un infiltré. Vous l'entendrez, ça va être fascinant et très inquiétant aussi.
Face à la dégradation des finances publiques, c'est un Bruno Le Maire sous pression qui s'exprime cet après-midi à l'Assemblée nationale. La situation est-elle vraiment préoccupante ? L'économiste Jean-Hervé Lorenzi est avec nous dans un instant.
Yves Calvi, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 9h. Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Il y aura d'énormes problèmes, mais il y aura d'énormes solutions, car le principe de l'émission, on vous l'a dit et répété, c'est quand vous avez un problème, nous téléphonons à la partie adverse et on tente la négociation et vous assistez à tout. Il y a aussi toutes les questions que vous posez aux spécialistes et l'incontournable journal des arnaques à 11h. Mais comment peut-on écouter autre chose à 9h ? Rendez-vous en direct sur RTL.
Et maintenant, parlons biodiversité avec la Fédération Nationale des Chasseurs.
Bonjour Victoire Bonheur. Alors vous êtes chargée de mission agro-environnement à la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts-de-France qui coordonne et finance la plantation de haies dans cette région, comme le font de nombreuses fédérations régionales des chasseurs sur le territoire. Pourquoi c'est important ?
Eh bien parce qu'elles ont un intérêt environnemental en protégeant les insectes, les oiseaux, les petits mammifères. Elles créent des corridors écologiques. Elles ont un intérêt climatique parce qu'elles permettent de stocker du carbone et de limiter la sécheresse. Et aussi un intérêt agronomique puisqu'elles protègent les cultures du vent et permettent d'accueillir les pollinisateurs, par exemple.
Et alors, combien de haies ont été plantées par les chasseurs en 2022 ?
Alors, pour 2022, je sais qu'à travers les fédérations et les chasseurs, c'est près de 600 km de haies, de buissons et d'arbres champêtres qui sont plantés à l'échelle nationale. Et en ce qui concerne les Hauts-de-France, en 2022, c'est 52 km de haies qui ont été plantées par les chasseurs, contre une quarantaine en 2021.
Merci Victoire Bonheur, à bientôt.
À bientôt.
Merci et rendez-vous lundi prochain pour parler biodiversité avec la Fédération Nationale des Chasseurs.
7h, 9h, RTL Matin.
Il est 8h19, bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous présidez le Cercle des économistes et je vous accueille avec mon camarade François Langlais. Les agences Fitch et Moody's n'ont finalement pas dégradé la France en dépit de notre déficit vertigineux de 5,5% en 2023. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'on dit ouf ?
Écoutez, je vais vous dire exactement ce que je vous aurais dit s'ils avaient dégradé.
Oui.
C'est pas la fin du monde. Je veux dire, on va pas vivre au rythme des notations de nos amis de Fitch, de Moody's et de Standard & Poor's. Alors, évidemment, ça n'est pas négligeable, mais tout ne peut pas être jugé à l'aune de ces nouvelles qui sont quand même, j'allais dire, toujours un peu discutables. La réalité, c'est
pardon avec moi, on s'en fout des agences de notation ?
Non, c'est pas du tout, on s'en fout. Je dis juste que vous, moi, on a besoin de continuer à vivre. On va vivre même quelle que soit leur opération, partir en vacances. Enfin, la vie n'est pas liée uniquement aux agences de notation. En revanche, le sujet est là. C'est-à-dire c'est un autre problème.
Rien n'est réglé au fond. Hein. Le déficit, il est là, il est important, plus important que prévu. La France, en termes de dette, est maintenant la troisième plus mauvaise en Europe. Ça vous inquiète ou pas ?
Bien sûr que ça m'inquiète. D'autant plus que si l'on prend le sujet vraiment du déficit, il est surtout devant nous. Car quand on regarde de près les trois transitions qu'il va bien falloir gérer, oui. Transition numérique... Il va bien falloir mettre un peu d'argent pour l'intelligence artificielle, transition climatique, décarbonation, etc. Et tout ça suppose la fiscalité, toute une série de sujets. Et surtout, transition démographique, qui est de très loin la plus importante. Nous avons chiffré à 90 milliards d'euros annuels le supplément de ce que coûterait en 2030, oui. Demain matin, le fait que les pays qui sont en train de vieillir, c'est-à-dire l'immense partie des pays, nous, c'est géant pour des raisons de retraite, pour des raisons de santé, pour des raisons d'épargne. Vous avez vu, et on a sorti 650 milliards d'euros, juste 650 millions d'euros il y a trois jours, tout simplement pour aider les EHPAD publics à survivre. Tout ça est géant. Et donc, il va falloir trouver les moyens de financer ces trois affaires, mais pas dans 20 ans, dans un an, deux ans ou trois ans.
Et alors, qu'est-ce que vous dites au président Macron ?
Je lui dis qu'il faut faire, non pas, on va pas raboter. Je veux bien qu'enlever deux, trois voitures dans les cours des ministères, c'est important. Vous avez vu les difficultés sur les 10, on a 10 milliards. Moi, j'admire Bruno Le Maire qui est là à faire le mieux possible son travail.
Mais j'ai cru que vous alliez nous dire qu'il fait semblant de faire des économies. Donc.
Non, il fait pas du tout semblant. Non, il fait ce qu'il peut faire quand on rabote. La réalité, c'est que c'est non pas le tel ou tel pays qu'il faut imiter par rapport à quelques rabotages, mais ce qu'ont fait la Suède et le Canada lorsqu'ils ont eu une crise à peu près équivalente à la nôtre, puisqu'on n'est quand même pas non plus...
Ils ont été vigoureusement,
et ils ont modifié l'organisation, il faut modifier l'organisation des services publics. Alors, il y a des choses...
Ça veut dire quoi, très concrètement ?
Concrètement, quand vous êtes directeur d'une école ou directeur d'un collège,
oui.
Il y a un moment, il va falloir que vous soyez vraiment responsable. Alors, ça touche tout. Je prends l'exemple le plus significatif. Quand vous prenez un hôpital, il va falloir que les médecins qui sont sont en charge en réalité du vrai métier reprennent la main. Quand vous êtes un peu partout, il va falloir réorganiser le système public, une vraie transformation de notre système. C'est pas facile.
Et pardonnez-moi, quoi ? Il y a trop de gens, ils travaillent pas assez, ils sont mal organisés.
Non, mais oui, dites-nous les choses. C'est bourré de gens. Comme RTL, il y a des gens formidables et des gens un peu moins bien. C'est la vie, ça. Il y a absolument le même pourcentage de gens. C'est juste le fait que les gens ne sont. Chez vous, vous êtes responsable. Tout le monde est responsable. La fonction publique est devenue totalement, j'allais dire, irresponsable. On le voit à travers les histoires de violence d'école.
Pardonnez-moi l'irresponsabilité. Est-ce qu'elle n'émane pas plutôt du gouvernement, du président, qui nous avait dit « Je fais 50 000 fonctionnaires en moins sur mon quinquennat », qui finalement en embauche de façon, semble-t-il, incontrôlé.
Alors, premier sujet, rendre responsable. Je vous laisse à vous la responsabilité de cette déclaration le matin sur le président de la République, que je laisserai peinard pour quelques minutes. Mais, complètement modifier l'organisation même. Je vous rappelle que la LOLF, loi organique, avait absolument prévu ça. On change tout par rapport aux moyens et on range les gens responsables des objectifs qu'ils doivent atteindre. Une école, ça doit faire fonctionner les choses, etc. Deuxième sujet, il est clair qu'on dépense énormément d'argent dans notre pays sous une espèce de rubrique totalement, j'allais dire, qui cache les choses, qui est les collectivités publiques, les collectivités locales. Moi, je veux bien qu'on change les pavés de toutes les rues de France et de Navarre, mais c'est évidemment ça qu'il faut arriver à boucler, puisque l'État compense. Et troisième sujet, qu'il faut traiter avec beaucoup de justice, beaucoup d'intelligence, c'est évidemment le problème de la protection sociale, c'est celui-là qui va arriver. Vous le voyez d'ailleurs.
On est trop protégés?
Non,
on est mal protégé pour un compte trop cher, c'est pas
non. Moi, je suis un retraité. Je fais partie des retraités qui devraient payer la CSG normalement, à qui il faut reprendre un peu d'argent, bien entendu.
Le gouvernement
ne peut pas payer pour les jeunes. Je veux dire, il y a véritablement, je trouve, dans cette période très particulière de ce déficit énorme, de ces dettes qui sont ingérables à terme, il y a au fond une sorte de prise de conscience générale du fait qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça signifie collectivité locale, ça signifie fonctionnaire et ça signifie fonctionnaire responsable.
Est-ce qu'on est jamais déjà sorti d'un niveau d'endettement comme aujourd'hui, c'est-à-dire à 110% du PIB?
Bien sûr que c'est, oui.
Et comment?
Le monde entier est en train de s'endetter. Alors, c'est pas bien de s'endetter, mais c'est la réalité. Je rappelle juste que nous sommes à un peu plus de 300 000 milliards d'euros de dette publique et privée, que l'ensemble du monde est en train de s'être endetté dans les conditions surréalistes, et nous aurons, à un moment ou à un autre, une crise financière sur ce sujet-là. Mais, je vais dire, ça dépasse le cas de la France.
Ça fait 30 ans que je suis journaliste et 30 ans que j'entends ce que vous êtes en train de nous expliquer. Pardonnez-moi. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a toujours expliqué qu'on ne paierait jamais notre dette. Bon, donc, comment on fait pour se responsabiliser et penser qu'on doit faire des efforts effectifs?
Je vous ai sacrément ouvert la porte en vous disant, complètement modifier l'organisation du service public, des institutions publiques, hôpitaux, etc. Tout. Je veux dire, ça ne marche pas. Deuxième sujet, si vous voulez faire des économies, il faut que ce soit les gens qui sont responsables des dépenses qu'ils font, qui prennent leur responsabilité.
D'accord.
Deuxièmement, évidemment, regardez le problème des collectivités locales qui ont embauché l'année dernière encore quelques milliers, si ce n'est plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires, dont on sait bien que c'est pas simple de faire travailler 35 heures. Et troisième sujet, sur la protection sociale, il faut répartir les choses.
On vous a entendu. Le gouvernement nous dit, ça va s'arranger avec la croissance. Au fond, il faut faire de la croissance, c'est le meilleur moyen de se désendetter. Vous y croyez?
Non, mais soyons un tout petit peu réalistes. On va évidemment pas désendetter le pays. On reviendra pas à 60% l'affaire de Maastricht en moins de, on va dire, c'est vos petits-enfants qui arriveront.
Oh là là.
Moi, c'est mes arrière-petits-enfants. Donc, le problème est de ne pas augmenter, d'arriver à ce qu'on appelle un excédent primaire, c'est hors des dépenses de remboursement de la dette, arriver à faire que les dettes, les charges correspondent à peu près aux recettes. C'est ça l'objectif.
Alors, avec les mesures très raisonnables que vous évoquez, en gros, moi, je vous mets 1 million de personnes dans la rue et un pays bloqué pendant 3 semaines.
Je n'y crois pas du tout. Je crois que les Français sont très lucides. Les Français sont comme toujours, parce qu'on a eu des choses terribles.
La réforme des retraites, ça vous a inspiré quelque chose ?
La réforme des retraites, c'était beaucoup, énormément de maladresse, donc une mauvaise humeur. On est un pays compliqué. De là à dire que la réforme des retraites, elle a eu lieu. En revanche, on n'a pas été foutu de sortir quelque chose sur le travail des plus de 60 ans, sur le travail des seniors. C'est autrement plus important que la réforme des retraites. La réforme des retraites, tout le monde est sorti dans la rue, puis ça a eu lieu. Elle a lieu, la réforme des retraites. Elle n'était pas grand-chose. Alors,
qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le travail des seniors,
c'est intéressant. Eh ben, je veux dire, les vraies réformes, c'est les réformes de structure, où il faut que on décide qu'à partir de 55 ans, quelqu'un, vous êtes heureusement sous cette limite d'âge, mais que quelqu'un de plus de 55 ans n'est pas à mettre au rebut. Deuxième sujet, pousser réellement faire que le MEDEF et les syndicats se mettent d'accord sur le fait qu'on remette au travail les gens à partir de 60 ans. C'est pas la croissance qui compte, c'est la quantité de travail. Un dernier mot. Si on avait la même quantité de travail, je veux dire pour les jeunes et pour les vieux, pas pour les actifs c'est à peu près la même chose, mais pour les jeunes et pour les vieux, on aurait que les Allemands, on résoudrait en une quinzaine d'années nos problèmes de déficit divers et variés, c'est-à-dire le déficit public et le déficit commercial.
Eh bien, grâce à vous, on va réfléchir sur la quantité de travail. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Vous présidez le Cercle des économistes qui organise les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se tiennent, je le rappelle, les 5, 6 et 7 juillet. Et je précise que l'entrée est gratuite et ouverte à toutes et à tous. Nous sommes d'accord ?
1 million de personnes.
Bonne journée à vous.
Il est 8h29 sur RTL. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. Et puis alors, le programme météo des prochains jours. Franchement, gardez tout prêt. Votre parapluie, votre ciré, les bottes, tout.
Un petit paletot.
Hein, voilà, vous avez tout dit, Amandine.
Que
malheureusement,
de la pluie.
Que de la pluie.
7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
Dans RTL Bonsoir, Alex Vizorek vous présente sa visioconférence.
François Bayrou s'est dit prêt, si besoin, à figurer à la fin de la liste de la majorité aux européennes.
Sympa, mais entre nous, je pense que Valérie Ayer et ses colistiers n'ont pas besoin de l'expérience de François Bayrou en matière d'élection. Ils peuvent très bien arriver à perdre tout seul.
La visoconférence, c'est tous les jours à 18h35 dans RTL Bonsoir. RTL Matin.
L'essentiel de l'actualité, Rachel Sadoudine.
Un grand plan de lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue décidé par le ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti veut notamment créer un véritable statut de repenti. Une idée qui va dans le bon sens, selon Fabrice Risoli, spécialiste de la grande criminalité et mafias, président de l'association Crimalt. Il était votre invité tout à l'heure sur RTL, Amandine.
Il a permis de fracturer de l'intérieur toute cette loi du silence, et c'est une des raisons pour lesquelles en Italie, la mafia ne tue plus. Il y avait un homicide par jour en Sicile dans les années 80. Aujourd'hui, la mafia existe encore, mais au moins, elle ne tue plus. Ensuite, quand on se fonde sur ce qui se passe à Marseille, vous avez aussi des dynasties dans le narco-banditisme des cités.
Mais ce statut de repenti, il peut régler le problème à Marseille, d'après vous ?
Il peut permettre de faire reculer les assassinats. Et ça serait déjà extrêmement important.
Interview complète à réécouter sur RTL.fr et l'application RTL.
Tout autre chose avec ce record de précipitation battu dans le Rhône avec 10 cm d'eau en une journée.
Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie hier dans le département avec des coulées de boue, notamment à Fézin. Antonio tient une boulangerie dans la commune. Il a réussi à l'évacuer et le raconte à Anna Jojard pour RTL.
L'eau commençait à rentrer à l'intérieur des sous-sols et c'était un peu la panique, quoi. Au début, c'était de l'eau. Ça arrivait à infiltrer dans les évacuations d'égouts, là. Et quand la boue est arrivée avec des branches et machin, c'était une catastrophe. Ça a tout bouché et la rue était complètement inondée. Et ça commençait à rentrer à l'intérieur du magasin et j'ai, avec un voisin, on a pensé à soulever ce qu'on appelle les évacuations d'eau, là, les grilles. Ça a permis de descendre des niveaux d'eau. Le problème, c'est que les champs en haut sont engorgés d'eau. C'est une vraie piscine dans les champs en haut. Si ça repeut encore toute la journée, je pense que ce soir, on est rebelote, hein.
Autre conséquence de ces fortes pluies, un train a déraillé après un glissement de terrain à Grigny. Le trafic entre Givors et Lyon-Perrache ne reprendra pas avant mercredi au plus tôt, annonce de la SNCF.
On en sait plus ce matin sur le contenu de l'accord qui a permis d'éviter une grève des contrôleurs aériens la semaine dernière.
Ils ont obtenu de gros avantages, jusqu'à 1000 euros d'augmentation nette de salaire par mois, des primes revalorisées, 18 jours de récupération supplémentaire par an. Et la liste est encore longue, un accord gagnant-gagnant selon le ministère des Transports qui promet une amélioration globale globale des performances et moins de retard à l'avenir. C'est une information RTL M6. Un nouveau carburant 100% renouvelable pourrait faire son apparition à la pompe et il se base sur l'actuel E85, comme l'explique Nicolas Courtsoulou, responsable carburant de Bioéthanol France au micro RTL de Christophe Bourroux.
Ça permet de réduire de 70% les émissions de CO2 par rapport à l'essence et de 90 à 98% les émissions d'oxyde d'azote et de particules en empreinte globale, c'est-à-dire y compris la production du carburant et sa consommation.
Et ce soir, vous pourrez retrouver un reportage sur ce nouveau carburant 100% renouvelable dans le 19h45 de M6.
Et puis le foot, le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire.
Et suite à la défaite de Monaco 3-2 à Lyon hier soir, Paris peut désormais se projeter sur la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund mercredi. Les autres résultats, Brest s'est imposé 5-4 face à Rennes au terme d'un impressionnant derby breton. Brest qui est désormais assuré de poursuivre son rêve européen. Et puis Marseille grimpe à la 7e place grâce à sa victoire 2-1 à domicile contre Lens. Enfin, chez les filles, l'OL s'est qualifiée pour la 11e finale de la Ligue des Champions féminines de son histoire en battant le PSG 2-1. Les Lyonnaises qui affronteront les Barcelonaises pour le titre.
Merci Rachel Sadodini, les 8h34. Louis Baudin, à quoi faut-il s'attendre dans notre ciel ? Attention, météo à 7 jours. Donc si vous nous dites que pendant 7 jours il va pleuvoir, ça va mal se passer.
Oh bah je m'en vais tout de suite alors, d'accord. C'est ce qui va se passer.
7 jours de pluie là ?
Bah oui, c'est 7 jours. Alors pas, il pleut pas toute la journée, heureusement, hein, on appelle ça un temps instable, c'est un ciel où on a des éclaircies, de passages nuageux. Par exemple aujourd'hui sur Paris, normalement il ne devrait pas pleuvoir, mais il pleuvra encore quasiment des Pyrénées jusqu'au nord-est, il pleuvra dans la vallée du Rhône, sur le massif central, autour du Languedoc-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Et ça c'est une très bonne nouvelle, mais dès demain, ça repart dans toutes les régions. Il y aura un risque, à un moment ou à un autre de la journée, c'est le matin pour certains, sera pour l'après-midi pour d'autres, vous aurez une averse. Ça laissera un petit peu de neige sur les reliefs à partir de 2000 mètres. Et puis les températures seront à peu près de saison, autour de 17, 19 degrés dans la moitié nord, 20 degrés dans le sud. Mais à partir de mercredi, ça va redescendre les températures, entre 15 et 16 degrés dans le nord. Donc nous serons de nouveau en dessous des moyennes de saison, avec là encore cette alternance, nuages, éclaircies, averses. Toutes les régions seront intéressées, pas de jaloux. Dans le sud également, près de la Méditerranée. Je peux reproduire ça pour la journée de jeudi, vendredi, samedi, ça continue. Oui, avec des températures un peu fraîches.
C'est ouvert parce que je vois des images absolument sublimes à la montagne.
Ah, bah là, au-dessus de 2000 mètres, vous avez encore des quantités de neige incroyables.
Même en dessous, j'ai vu des trucs incroyables.
Oui, alors c'est un peu plus. Mais oui, c'est, il y a encore des quantités de neige incroyables. Ça, c'est d'ailleurs un beau château d'eau pour le printemps et l'été, puisque quand ça va fondre.
Réjouissons-nous.
Voilà, ça sera là aussi une bonne nouvelle. Non, l'amélioration, elle pourrait arriver à partir de dimanche, peut-être, un peu
peut-être,
moins d'averse.
J'adore.
Et puis j'espère que la semaine prochaine, quand même, cet anticyclone des Açores qui est très feignant en ce moment, oui, va daigner revenir jusqu'à nous quand même.
Merci beaucoup Louis Botin.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Quel est votre choix télé du jour ?
Bon petit reine, cet épisode, succès phénomène sur Netflix. Mes amis critiques m'ont dit, regarde, c'est génial. Très bien. J'ai donc tout vu et d'abord me suis-je dit, sont-ce vraiment des amis ? Parce que c'est intéressant mais quand même éprouvant cette affaire. L'histoire d'un barman humoriste raté qui voit débouler dans son bar Martha bruyante, chair surabondante, paumée, désargentée. Il lui offre un thé. Immédiatement, elle se dit en couple avec lui et le harcèle violemment durant 5 ans. Il est écœuré, effrayé, ulcéré, apeuré, mais accro à son adoration. Et pas qu'à ça, ayant jadis été violé par un producteur qui l'a initié aux drogues. Si l'histoire ne manque pas de fondement, le sien de fondement est malmené. Et si on le sait, c'est qu'on nous laisse à rien ignorer. Il est touchant et à toucher, c'est très addictif, très descriptif, souvent trop complaisant. C'est l'histoire vraie de Richard Gadd qui joue son propre rôle. Martha lui a envoyé au total 41 000 mails, 350 heures de messages, 740 tweets. C'est sûr, ça brouille les coudes et brouille les coudes. C'est une contrepétrie, je vous la laisse tourner.
Bon, mais on regarde ou pas ?
Mais oui, mais moi, cet épisode, il y en aurait eu un de moins facile, j'aurais préféré.
Mon petit reine, c'est sur Netflix et c'est un carton depuis
un
que
carton
c'est sorti.
Plus 408% entre la première et la deuxième semaine. Cela dit, vous regardez 3 minutes ou la totalité, c'est pareil.
D'accord.
Et dans un instant, la deuxième dose de Kev Rivière. Vous êtes prêt, docteur Jimmy Mohamed. Vous revenez, vous, sur ce joueur de basket atteint de paralysie faciale. Oui. Ça m'a échappé, ça.
Imaginez que vous réveillez le matin avec la moitié du visage totalement paralysé.
Oh.
Oui. C'est pas si rare que ça.
Ah merde.
Pas
gros mot. Bravo.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence d'essai. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe Urgence Décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une prise en charge partout en France. Urgence Décès 3012, un service PFG.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€.
Les fraises ondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué. Hein.
En barquette, patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est bien beau de vouloir mettre les enfants en pension. Et qui va payer tout ça? Parce que en temps normal, l'école est gratuite, mais là, c'est pas gratuit, là.
La façon d'éduquer les enfants, moi, je trouve que c'est plutôt l'État qui a les responsabilités et non pas de dire les parents ne font rien.
Vous aussi, vous souhaitez partager votre point de vue sur un sujet d'actualité? Vous êtes au bon endroit. Tous les jours à 13h, les auditeurs ont la parole sur RTL.
RTL.
Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
Notre deuxième dose pour bien commencer la semaine. Philippe, nous recevions ce matin Fabrice Risoli, docteur en sciences politiques et spécialiste du crime organisé.
Nique ta mère sur la canne claire, nique tes morts sur le vieux port.
Ah, Sheila et Ringo, tous deux tristement disparus dans un accident de gondole à Venise. Alors, on a reçu Fabrice Risoli, spécialiste du crime organisé qui combat donc les mafias. On n'est pas con, on ne l'a pas invité quand on était à Marseille, sinon il aurait fini dans le vieux port. Alors, Fabrice Risoli, nom à consonance italienne pour un spécialiste de la mafia, ça tombe bien, presque trop même, c'est un peu comme un expert de la contrefaçon qui s'appellerait Li Wang, un médecin spécialisé dans le traitement de la tourista qui se nommerait Vikash Pradvarti. En tout cas, on l'a appris ce matin, si vous en avez marre de votre prénom et que l'administration ne vous écoute pas, il suffit d'intégrer le crime organisé, de tuer une dizaine de personnes, trafiquer de la drogue, et puis vous revenez au commissariat et vous dites « Là, je préférerais Antoine plutôt que Jordan. » Et là, vous pourrez changer de nom. Éric Dupond-Moretti souhaite notamment, on l'a dit aussi, créer un parquet national dédié à la lutte contre le crime organisé. Contre la criminalité organisée, il veut mettre en place sa nouvelle réforme le plus vite possible. Il est pressé d'y aller. Bref, le garde des Sceaux a, comme toujours, le cigare au bord des lèvres. C'est lundi, c'est poésie. Macron, lui, il est arrivé à l'Élysée. Vous avez vu, il a changé les rideaux et la moquette. Dupond-Moretti, lui, il veut changer le parquet. J'ai l'impression que les macronistes, ils ont dit qu'ils voulaient rénover la France. En fait, ils font juste de la déco.
Éric Dupond-Moretti qui souhaite par ailleurs, et c'est ce dont on parlait ce matin, mettre en place en France un statut de repenti à l'italienne.
Oui, nous sommes en avance, nous à RTL, car nous avons ouvert la porte aux repentis, puisque nous avons accueilli le chroniqueur belgo-bolchevique Alex Vizorek.
Bien sûr.
On lui a ouvert les bras, on lui a dit « Tu vois bien que la gauche, ça marche pas !» Alors, à titre personnel, j'ai connu moins de succès avec ma femme. J'ai dit « Je t'ai trompé trois fois avec la baby-sitter, ça n'a pas fonctionné, pas de remise de peine, mais deux grandes claques dans la gueule. » Peut-être parce que nous n'avons pas d'enfant, donc
oui,
l'excuse de la baby-sitter n'a pas rencontré son public, non. Alors, le risque de ce statut, c'est le retour aux affaires des récidivistes. J'ai envie de juste dire de mots. Oui, il y a des récidivistes. Il y a Redouane Faïd. Bon, déjà, il y avait deux éléments qui auraient dû mettre la puce à l'oreille de la justice. C'est Redouane. Et puis c'est Faïd. Alors, évidemment, c'est très raciste, mais j'ai fait un bowling avec des potes de CNews samedi soir.
Vous comprenez mieux.
Un peu sous le coup.
Bon, tout autre chose, le pape François qui s'est rendu hier à Venise pour son premier déplacement depuis 7 mois.
Le Vatican a officialisé une tournée papale en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor-Oriental et Singapour. Alors c'est pour septembre 2024. Alors ne prenez pas vos billets à l'avance parce que le pape François, c'est comme Hugo Frey. Achetez vos billets 10 minutes avant.
Vous allez nous fâcher.
Moi, j'ai encore deux places en carré or pour Marcel Amont. Sur les bras. À voir, Mandine, je vous laisse Marcel Amont. Peut-être les vendre à Philippe
Bouvard. Mais non, j'ai pas de suite, moi.
Mais non plus. 42 euros. Hey, ça va, c'est le mois de mai, c'est les ponts.
Oui, bien sûr.
Ça, on est en mode.
Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin de Joel Embiid, ce joueur de basket américain qui joue depuis quelques jours avec son équipe des Sixers de Philadelphie, tout en souffrant d'une vraie paralysie faciale.
Oui, qui correspond tout simplement à la paralysie d'une partie ou de toute la moitié du visage. En fait, cette paralysie, elle est due à l'atteinte d'un nerf qu'on appelle le nerf facial. En fait, ce nerf, il est incroyable car il part à l'arrière du cerveau, il traverse l'os qui est situé juste derrière l'oreille, qu'on appelle le rocher, et va se diviser ensuite au niveau du visage.
Et c'est ce nerf qui donne notamment la motricité des muscles du visage.
Oui, c'est grâce à ce nerf que vous arrivez à bouger les muscles de votre visage, à sourire, à souffler, à froncer les sourcils ou encore à fermer les yeux. L'atteinte de ce nerf facial va donc entraîner une paralysie des muscles du visage. Elle arrive le plus souvent de façon brutale. On se réveille le matin avec la moitié du visage paralysé. En clair, on a la bouche qui se déforme et on ne peut plus fermer les yeux.
Ça ressemble à un accident vasculaire cérébral, ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Oui, car en fait, on distingue deux types de paralysie faciale. Une dite périphérique et une dite centrale. Lorsque la paralysie est centrale, elle va toucher le nerf dans sa partie interne au niveau du cerveau. Et là, vous avez raison Yves, c'est dans le cas d'un accident vasculaire cérébral. Mais dans ce cas-là, vous avez d'autres signes neurologiques. Vous avez du mal à articuler, à parler. Vous avez un bras ou une jambe paralysé. Mais dans la paralysie faciale périphérique, celle dont souffre le joueur de NBA, eh bien, vous n'avez aucun autre signe neurologique en dehors de ce visage qui ne bouge tout simplement plus.
Et alors, à quoi est-ce dû ?
Eh bien, on ne sait pas exactement.
Ah bon ?
À l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, ce nerf va être paralysé. On parle alors de paralysie faciale afrigorée. C'est une maladie qui touche d'ailleurs autant les hommes que les femmes, avec un pic aux alentours de 40 ans. On pense en revanche que cette atteinte du nerf... En revanche, on pense que cette atteinte du nerf pourrait être liée à une réactivation du virus de l'herpès.
Le virus de l'herpès qui se réactive et qui provoque cette paralysie ?
Oui, en fait, quand vous contractez le virus de l'herpès, vous avez des symptômes pendant quelques jours, mais le problème, c'est qu'il va rester en mémoire stocké toute votre vie dans ce qu'on appelle les ganglions qui sont pas très loin de ce nerf facial. Or, ce virus de l'herpès, il peut se réactiver sous le coup de la fatigue, d'un stress et attaquer ce nerf facial.
Et comment traite-t-on cette paralysie ? Ça se traite ?
Non, il n'y a pas de médicaments.
Non.
Il n'y a pas de traitement spécifique.
Ça reste...
Alors, le plus souvent, dans un premier temps, l'urgence, c'est de mettre un pansement au niveau de l'œil paralysé, puisque comme vous n'arrivez plus à le fermer correctement, eh bien votre œil n'est plus protégé, car lorsque vous dormez la nuit, vous fermez les yeux pour produire des larmes. Donc, on met un pansement au inclusif. Ensuite, il va falloir faire des séances d'orthophonie pour rééduquer votre visage. Encore faut-il trouver un orthophoniste. Mais dans l'immense majorité du temps, c'est la bonne nouvelle, cette paralysie régresse en quelques semaines, voire quelques mois.
Bon, voilà. Et vous allez désormais dispenser Cyprien Sini de vos chroniques parce qu'il est complètement hypochondriaque, donc là, il est mal.
C'est horrible. Il marque encore des paniers.
Il a mis 50 points malgré tout.
Non.
Malgré
non.
Cette paralysie. Eh oui, comme quoi c'est exceptionnel. C'est pour ça que je voulais revenir dessus.
J'ai mal partout.
Mais on peut parler ou pas ?
On peut parler, mais on a un peu du mal à articuler puisqu'on a la moitié du visage qui
descend. Donc on vient pas travailler à la radio si on a la...
Ah oui, non mais trouvez pas des sujets, je vous ferai pas d'arrêt maladie.
Bon, bah tout ça nous permet de retrouver Cyril Lignac qui lui est en pleine forme. Vous nous proposez une recette de saison à faire chaude ou froide, Cyril.
Oui, et ben comme c'est le début des légumes verts, on va faire une crème à base de petits pois, asperges, menthe fraîche, avec du fromage frais.
Voilà.
Et surtout, ce qui est bon, c'est qu'on va rajouter après des pois chiches à l'intérieur.
Ah oui.
Comme ça, on va avoir un peu une double texture et des petits croutons de pain. Alors, on y va. Dans une casserole d'eau bouillante salée, on va cuire les légumes verts, donc les petits pois dans de l'eau bouillante. Ensuite, on les enlève, on ajoute les asperges, on glace tout le monde pour garder bien la chlorophylle et pas avoir une soupe marron. Et ensuite, on va les mettre dans le mixeur. Vous mettez du bouillon de légumes, on mixe tout ça à texture. Vous ajoutez une à deux feuilles de menthe. Pas trop, c'est pas un thé à la menthe.
Oui.
Donc on met juste une feuille pour donner un petit côté exhausteur de goût mentholé. Et on mixe bien tout ça. Et à la fin, j'ai une petite astuce.
Ah.
Vous mettez... Ça vous fait rigoler.
Non.
Vous mettez un peu de Jet 31, l'alcool de menthe. Là. Si, une petite cuillère à café. Ce qui va permettre, c'est assez dingue, ça va donner de la fraîcheur au velouté. Sans donner le côté alcooleux, pas du tout. Le but, c'est pas de verser la bouteille, c'est vraiment
L'alcool sans l'alcool, ça m'intéresse pas.
Non mais
je vais boire de l'eau minérale.
Personne n'y fait bon sens.
Bah merci.
On met un tout petit peu d'alcool, de cet alcool de menthe, et ensuite vous mixez tout ça, vous le servez chaud ou froid. Tartine de pain toasté frottée à l'ail, un petit peu de chèvre frais, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette. et vous le servez juste à côté comme ça avec un filet d'huile d'olive. C'est hyper bon et frais.
Mmh. Et c'est light en plus pour le summer
et
body.
Et c'est light, chaud ou froid. Vous retenez le
summer body. Alors là, c'est merveilleux. Allons-y à fond dans le summer body. Bon, j'aurais bien fait aussi avec du basilic, non, cette histoire.
Oui, on peut faire avec du basilic, mais ouais. Moi j'ai une préférence pour la menthe.
Ah bah oui.
Parce que là maintenant, ça va apporter vraiment ce côté fraîcheur que l'on aime tant, et on peut le manger en effet froid. Ou chaud, parce qu'il fait pas très chaud. Hein. Ah j'ai goûté Louis Baudin, là, il m'a cassé le moral.
Non, mais non, mais non, mais non. Il y en a un qui va nous remonter le moral tout de suite, c'est Julien Courbet.
Oui, mais il est toujours à son automne body, lui, pour l'instant. Oui, ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, écoutez, il y a des choses pas très réjouissantes, en fait. Il y a une arnaque qui nous a fait un peu froid dans le dos. C'est un monsieur qui est en situation de handicap. Il a donc un auxiliaire de vie. Et il se confie à lui en lui disant « j'aimerais bien rencontrer une femme, etc. » L'auxiliaire de vie va se déguiser, se faire passer pour la fameuse femme et le saigner, mais alors jusqu'au dernier centime. Un truc glauque, mais juste incroyable. Et puis plus classique, un monsieur qui a payé sans vouloir deux fois son camion en garage. Et le garage dit, écoutez, t'as payé, je ne rembourse pas.
C'est pas possible.
À 9h,
bon,
on
heureusement
irait,
que vous êtes là. Bah oui, ça peut nous arriver, il n'y a
camion.
Pas de doute.
Ça y est, tout de suite. Bon, eux, ils vont nous remonter le moral.
Oh, ça, c'est sûr. À tout de suite avec Laurent Vera et Mademoiselle Jade.
Oui. RTL Matin.
Crois-moi,
7h, 9h.
La nuit, le jour n'existe pas.
Calvi, Amandine Bégaud.
S'il te plaît, crois-moi.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Sauvignon, un cépage blanc qui ne manque pas de mordant.
Sous le soleil du Pays d'Oc, mes arômes d'agrumes et moi, on tient une forme. Un rayon de soleil, j'envoie de la fraîcheur à l'apéritif. Un plateau de fruits de mer, un plat épicé, hop, de la vivacité. Bref, si vous voulez du peps, c'est moi qui régale.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Flavie Flamand sur RTL, jour J.
On dit d'elle qu'elle est l'application qui rembête nos enfants et nos adolescents. Ses utilisateurs sont scotchés sans voir le temps passer, devant des vidéos souvent sans intérêt. Mais cet algorithme peut aussi avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale des adolescents. Avalanche de vidéos d'automutilation, incitation au suicide, certains d'entre eux passent à l'acte. Le danger TikTok, c'est ce soir à 20h dans jour J.
7h-9h,
RTL Matin.
Amandine Bégaud et Yves Calvi.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Monsieur Calvi, bonjour à
bonjour
tous.
Monsieur.
Bonjour les amis.
Bonjour Dor.
Ah bah...
Monsieur
Chiasson. On commence avec le rappel des titres et c'est aujourd'hui Pascal Praud qui s'en charge. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Il y a 3 jours, Emmanuel Macron tenait son discours sur l'Europe à la Sorbonne. Selon notre président, l'Europe peut mourir. Depuis, les réactions pleuvent.
En effet, Philippe de Villiers a déclaré « Si l'Europe meurt, je débouche une bouteille de Trouspinette ». Michel Onfray a réagi sur CNews « Je veux bien lui payer son cercueil à l'Europe ». Quant à moi, je me porte volontaire pour organiser la Goodbye Party de l'Europe, inspirée de la Goodbye Party de Nicolas Taverneau la semaine dernière.
Ah, vous y étiez ?
Oui. Tout à fait, mais j'ai été déçu par le buffet. Plutôt que de le confier à Cyril Lignac, l'ex-président du groupe M6, fidèle à sa réputation de pince, nous a reçus avec du pain de mie et du Tarama Leader Price. Mais ça ne m'a pas empêché de glisser discrètement mon 06 à Ophélie Meunier.
Oui, mais ça ne nous regarde pas, Pascal. Bonne nouvelle pour les Français, les agences Moody's et Fitch n'ont pas dégradé la note de la France.
Pardon de vous contredire, mais les Français s'en fichent. La saison des barbecues approche, ce qui compte pour eux, c'est que la note de l'andouillette ne soit pas dégradée et qu'elle ait toujours ses 5 A.
Société, les personnes de gauche seraient plus intelligentes que les personnes de droite, selon une étude américaine relayée par les Inrecuptibles.
Dont on connaît l'objectivité et la neutralité. Des conclusions donc à nuancer toutefois, puisque selon une autre étude, les gauchistes sont des crétins sectaires.
Ah, on peut savoir source ?
Oui, tout à fait. Il s'agit d'une étude de l'IPPEP, Institut Pascal Pro d'études politiques.
Ah bah je me disais aussi. On termine avec les JO. La flamme olympique a quitté la Grèce ce week-end.
En effet, personne n'a pu échapper à l'embarquement de la flamme olympique à bord du Belém. Au départ du Belém, la première nuit de la flamme à bord du Belém. Grâce aux chaînes d'infos, la croisière s'amuse est devenue la croisière sans merde.
La semaine dernière, la chaîne W9 diffusait les flammes de la musique, des trophées qui récompensent les meilleurs artistes du rap et de la musique urbaine. Une cérémonie que notre ami Pierre Arditi a regardée. Je crois, n'est-ce pas, Pierre?
Non, j'ai regardé. Vous avez vu ça? Non, mais je rêve. Je m'installe avec un bon verre de Bourgogne. Je pensais regarder une rediffusion de Maggie avec Rosie Vart et Jean-Marc Thibault sur W9, une chaîne du groupe. Et je tombe sur Aya Nakamura en Bermuda blanc. Il chante. Je vous cite parce que j'ai noté. J'avais bla 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 de la poqui. Ferme la porte. J'ai la poqui dans le sas. J'ai la poqui dans le sas.
Ah oui, j'ai la poqui dans le sas.
Non. Je sais pas qui est. Qu'est-ce qu'est la poqui qu'elle a dans le sas? Mais cette femme a mal. Cette femme souffre. En plus, elle a un chat métallique dans la gorge. On dirait qu'elle chante dans un tube en fer rouillé en se pinçant le nez. C'est une horreur. Non, mais cette femme souffre. Sortez-la de là. Sortez-la. Non.
Alors, ne vous inquiétez pas pour elle, Pierre Arditi. Aya Nakamura a beaucoup de succès. Rien à prouver. Croyable. Vous savez, c'est fini la chanson de papa avec un refrain et des couplets. Hein. Laissez-vous aller au rythme.
Non, au rythme. Non, mais vous me prenez pour qui, ma petite fille? Non, mais vous avez vu du rythme là-dedans. Sa chanson durait 7 minutes. C'est interminable. On aurait dit une alarme de voiture.
Ah non, mais Pierre, attention. Ce n'était pas une seule chanson qu'Aya a chantée, c'est un medley de 4 chansons.
Non, mais 4 chansons. Non, mais je rêve. Il n'y avait qu'une seule note pour 4 chansons. Non mais je vais me réveiller, vous allez me réveiller là, non je vais me réveiller. Non mais je vais vous en faire moi des chansons, moi aussi je vais avoir la poquille dans le sas, c'est facile. Hein. Et si ça se trouve on va me demander de chanter à l'ouverture des JO.
Non je pense pas, non.
Ah oui, alors à propos de JO,
oui.
Je zappe, je pensais être débarrassé de la soirée des flammes, je tombe sur BFM sur la flamme, je tombe là-dessus. La flamme olympique, on nous a bassiné tout le week-end parce qu'elle a pris le bateau, mais on s'en tape. On s'en tape que la flamme ait pris le bateau. Elle est partie d'Athènes pour arriver à Marseille. Cette flamme est un migrant. Cette flamme est un migrant. Arrêtez-la. Arrêtez-la à la frontière. Envoyez-la à Athènes, qu'elle retourne se faire voir chez les Grecs, cette flamme.
Alors justement, prenons des nouvelles de cette flamme olympique merveilleuse. Consultant vite notre répondeur.
C'est Lambert Wilson à l'appareil, sono Lamberto al telefono. Les JO sont une flamme, the Olympic Games are a flame. Les Olympiens sono una fiamma.
Qu'est-ce qui s'occupe qui sale au prix de flamme trimballé par des mouquets en costard sans manche?
C'est pourquoi, moi, Lambert, en tant qu'acteur international, je vais déclarer ma flamme à la flamme au JO à Paris. Pour les Jeux, c'est parti. On se baigne dans la Seine entre deux rats pourris à Paris. Et on a la courante pendant toute la semaine à Paris. À Paris. Allô, c'est JB. Jean-Baptiste Guégan au téléphone du répondeur. J'appelle au sujet de la flamme oplanique. La flamme de JO. J'ai vu dans ma télé que la flamme, elle a pris le bateau à Athènes le 26 avril et qu'elle va arriver à Marseille le 8 mai. Je voudrais bien savoir pourquoi qu'elle prend pas l'avion au lieu du bateau, parce qu'elle serait à Marseille en 2h30. À moins que peut-être, si elle prend l'avion, elle pourra pas fumer. Et est-ce que le type qui porte la flamme, il va continuer à courir sur le bateau avec la flamme? Oh, j'y comprends rien du tout. Bonjour, c'est François Bayrou à l'appareil. Le 20 mai prochain, retenez bien, en mon honneur, la flamme olympique passera dans ma ville de Pau. J'ai donc décidé que...
Non, Mes chers compatriotes, les gens de la salle, tête de liste de l'Alliance Rurale, la flamme la flamme olympique, la flamme connerie, la flamme ne passera pas. Dans la vallée bout du con, la flamme la con. Avec la Fédération nationale des chasseurs. Pan dans le cul la flamme. Je vais voir, si elle va pas courir jusqu'à Paris, la flamme. Ouais, c'est Régis Gauthier, direction des programmes. Bon, les gars, je dis rien, sinon vous allez encore passer du Bourville. Mais je vous rappelle que RTL couvre les JO. Hein. Alors, ça serait bien de faire un truc un peu jeune et positif sur la flamme. Allez, no offense et bisous, les garçons. Hein.
La flamme olympique est emblématique.
Oh non, 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 non. Non, 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 mais c'est affligeant, j'en arrive à regretter Bourville. Pardon.
On se retrouve après cette petite page de pub. Ah. Surtout, ne bougez pas.
Yeah, yeah. Wow. Merci ma maman chérie. Merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie. Je t'aime ma maman, merci.
Si vous êtes la maman de ce gamin insupportable et que vous en avez marre qu'il chante des niaiseries avec une voix de débile, pour vous remercier de vos hamburgers, arrêtez de lui en acheter. Et si c'est votre fille, on lui offre une gourde pour qu'elle la ferme. Et croyez-moi, vos voisins vous remercieront.
Yeah, yeah. Wow.
Burger con, le burger qui rend con.
Yeah, yeah. Wow.
Ça suffit, crétin, va faire tes devoirs.
Ça nous soulage.
Oh oui.
Je crois que ces notes de piano annoncent la venue de notre ami André Manoukian.
Salut. Bonjour la Jade. André. Salut la Jade.
De quelle chanson allez-vous nous raconter l'histoire secrète?
Bah, j'ai choisi une chanson fabuleuse.
Oui.
C'est Plusieurs vies de Kenji Girac. Mais d'abord, écoutons le refrain.
Oui.
Montrez le vrai visage, aimez la folie, tout droit dans le virage. Quand j'en ai
On a des chansons intelligentes hein, ce matin. Hein. On a eu La Flamme, les burgers et maintenant on a Kenji Girac. Hein. Bah, alors on regarde ce matin. Hein.
Bon, alors André,
on relève le niveau.
Oui, d'accord, André. Dites-nous quel est le sens de cette chanson plutôt.
Eh bien, déjà, il faut savoir que Kenji, il a une